Lettre 110, le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Puissance du ciel, j'avais une âme pour la douleur, donnez-m'en une pour la fidélité. C'est, je crois, le tendre Saint-Preux qui s'exprime ainsi. Mieux partagé que lui, je possède à la fois les deux existences. Oui, mon ami, je suis en même temps très heureux et très malheureux. Et puisque vous avez mon entière confiance, je vous dois le double récit de mes peines et de mes plaisirs. Sachez donc que mon ingrate dévote me tient toujours rigueur. J'en suis à ma 4e lettre renvoyée. J'ai peut-être tort de dire la 4e, car ayant bien deviné dès le premier renvoi qu'il serait suivi de beaucoup d'autres, et ne voulant pas perdre ainsi mon temps, j'ai pris le parti de mettre mes doléances en lieu commun et de ne point dater. Et depuis le second courrier, c'est toujours la même lettre qui va et vient. Je ne fais que changer d'enveloppe. Si ma belle finit comme finissent ordinairement les belles, et s'attendrit un jour au moins de lassitude, elle gardera enfin la missive, et il sera temps alors de me remettre au courant. Vous voyez qu'avec ce nouveau genre de correspondance, je ne peux pas être parfaitement instruit. J'ai découvert pourtant que la légère personne a changé de confidente. Au moins me suis-je assuré que depuis son départ du château, il n'est venu aucune lettre d'elle pour Madame de Volanges, tandis qu'il en est venu deux pour la vieille Rosemonde. Et comme celle-ci ne nous en a rien dit, comme elle n'ouvre plus la bouche de sa chère belle, dont auparavant elle parlait sans cesse, j'en ai conclu que c'était elle qui avait la confidence. Je présume que d'une part le besoin de parler de moi, et de l'autre la petite honte de revenir vis-à-vis de Madame de Volanges sur un sentiment si longtemps désavoué, ont produit cette grande révolution. Je crains encore d'avoir perdu au change, car plus les femmes vieillissent, et plus elles deviennent rêches et sévères. La première lui aurait dit bien plus de mal de moi, mais celle-ci lui en dira plus de l'amour, et la sensible prude a bien plus de frayeur du sentiment que de la personne. Le seul moyen de me mettre au fait est, comme vous voyez, d'intercepter le commerce clandestin. J'en ai déjà envoyé l'ordre à mon chasseur, et j'en attends l'exécution de jour en jour. Jusque-là, je ne puis rien faire qu'au hasard. Aussi, depuis 8 jours, je repasse inutilement tous les moyens connus, tous ceux des romans et de mes mémoires secrets. Je n'en trouve aucun qui convienne, ni aux circonstances de l'aventure, ni au caractère de l'héroïne. La difficulté ne serait pas de m'introduire chez elle, même la nuit, même encore de l'endormir, et d'en faire une nouvelle Clarisse. Mais après plus de 2 mois de soins et de peines, recourir à des moyens qui me soient étrangers, me traîner servilement sur la trace des autres et triompher sans gloire. Non, elle n'aura pas les plaisirs du vice et les honneurs de la vertu. Ce n'est pas assez pour moi de la posséder, je veux qu'elle se livre. Or pour cela, il faut non seulement pénétrer jusqu'à elle, mais y arriver de son aveu, la trouver seule et dans l'intention de m'écouter. Surtout lui fermer les yeux sur le danger, car si elle le voit, elle saura le surmonter ou mourir. Mais mieux je sais ce qu'il faut faire, plus j'en trouve l'exécution difficile. Et dussiez-vous encore vous moquer de moi, je vous avouerai que mon embarras redouble à mesure que je m'en occupe davantage. La tête m'en tournerait, je crois, sans les heureuses distractions que me donne notre commune pupille. Et c'est à elle que je dois d'avoir encore à faire autre chose que des élégies. Croiriez-vous que cette petite fille était tellement effarouchée qu'il s'est passé 3 grands jours avant que votre lettre ait produit tout son effet. Voilà comme une seule idée fausse peut gâter le plus heureux naturel. Enfin, ce n'est que samedi qu'on est venu tourner autour de moi et me balbutier quelques mots, encore prononcés si bas et tellement étouffés par la honte qu'il était impossible de les entendre. Mais la rougeur qu'ils causèrent m'en fit deviner le sens. Jusque-là, je m'étais tenue fière. Mais fléchi par un si plaisant repentir, je voulus bien promettre d'aller trouver le soir même la jolie pénitente. Et cette grâce de ma part fut reçue avec toute la reconnaissance due à un si grand bienfait. Comme je ne perds jamais de vue ni vos projets ni les miens, j'ai résolu de profiter de cette occasion pour connaître au juste la valeur de cet enfant, et aussi pour accélérer son éducation. Mais pour suivre ce travail avec plus de liberté, j'avais besoin de changer le lieu de nos rendez-vous, car un simple cabinet qui sépare la chambre de votre pupille de celle de sa mère ne pouvait lui inspirer assez de sécurité pour la laisser se déployer à l'aise. Je m'étais donc promis de faire innocemment quelques bruits, qui pût lui causer assez de crainte pour la décider à prendre, à l'avenir, un asile plus sûr. Elle m'a encore épargné ce soin. La petite personne est rieuse, et pour favoriser sa gaieté, je m'avisai, dans nos entr'actes, de lui raconter toutes les aventures scandaleuses qui me passaient par la tête. Et pour les rendre plus piquantes et fixer davantage son attention, je les mettais toutes sur le compte de sa maman, que je me plaisais à chamarrer ainsi de vices et de ridicules. Ce n'était pas sans motif que j'avais fait ce choix. Il encourageait mieux que tout autre ma timide écolière, et je lui inspirais en même temps le plus profond mépris pour sa mère. J'ai remarqué depuis longtemps que si ce moyen n'est pas toujours nécessaire à employer pour séduire une jeune fille, il est indispensable, et souvent même le plus efficace, quand on veut la dépraver. Car celle qui ne respecte pas sa mère ne se respectera pas elle-même. Vérité morale que je crois si utile que j'ai été bien aise de fournir un exemple à l'appui du précepte. Cependant, votre pupille, qui ne songeait pas à la morale, étouffait de rire à chaque instant. Et enfin, une fois, elle pensa à éclater. Je n'eus pas de peine à lui faire croire qu'elle avait fait un bruit affreux. Je finis une grande frayeur, qu'elle partagea facilement. Pour qu'elle s'en ressouvînt mieux, je ne permis plus au plaisir de reparaître, et la laissai seule 3 heures plus tôt que de coutume. Aussi convînmes-nous, en nous séparant, que dès le lendemain ce serait dans ma chambre que nous nous rassemblerions. Je l'y ai déjà reçue 2 fois, et dans ce court intervalle, l'écolière est devenue presque aussi savante que le maître. Oui, en vérité, je lui ai tout appris, jusqu'aux complaisances. Je n'ai accepté que les précautions. Ainsi occupée toute la nuit, j'y gagne d'y dormir une grande partie du jour. Et comme la société actuelle du château n'a rien qui m'attire, à peine parais-je 1 heure au salon dans la journée. J'ai même aujourd'hui pris le parti de manger dans ma chambre, et je ne compte plus la quitter que pour de courtes promenades. Ces bizarreries passent sur le compte de ma santé. J'ai déclaré que j'étais perdue de vapeur. J'ai annoncé aussi un peu de fièvre. Il ne m'en coûte que de parler d'une voix lente et éteinte. Quant au changement de ma figure, fiez-vous-en à votre pupille. L'amour y pourvoira. J'occupe mon loisir en rêvant au moyen de reprendre sur mon ingrate les avantages que j'ai perdus, et aussi à composer une espèce de catéchisme de débauche à l'usage de mon écolière. Je m'amuse à n'y rien nommer que par le mot technique, et je ris d'avance de l'intéressante conversation que cela doit fournir en très légère cour la première nuit de leur mariage. Rien n'est plus plaisant que l'ingénuité avec laquelle elle se sert déjà du peu qu'elle sait de cette langue. Elle n'imagine pas qu'on puisse parler autrement. Cette enfant est réellement séduisante. Ce contraste de la candeur naïve avec le langage de l'effronterie ne laisse pas de faire de l'effet. Et je ne sais pourquoi il n'y a plus que les choses bizarres qui me plaisent. Peut-être que je me livre trop à celle-ci, puisque j'y compromets mon temps et ma santé. Mais j'espère que ma feinte maladie, outre qu'elle me sauvera de l'ennui du salon, pourra m'être encore de quelque utilité auprès de l'austère dévote, dont la vertu tigresse s'allie pourtant avec la douce sensibilité. Je ne doute pas qu'elle ne soit déjà instruite de ce grand événement, et j'ai beaucoup envie de savoir ce qu'elle en pense. D'autant plus que je parierai bien qu'elle ne manquera pas de s'en attribuer l'honneur. Je réglerai l'état de ma santé sur l'impression qu'il fera sur elle. Vous voilà, ma belle amie, au courant de mes affaires comme moi-même. Je désire avoir bientôt des nouvelles plus intéressantes à vous apprendre, et je vous prie de croire que dans le plaisir que je m'en promets, je compte pour beaucoup la récompense que j'attends de vous. Du château de ce 11 octobre 1700. Lettre 111, le comte de Gercourt à Madame de Volanges. Tout paraît, madame, devoir être tranquille dans ce pays, et nous attendons de jour en jour la permission de rentrer en France. J'espère que vous ne douterez pas que je n'ai toujours le même empressement à m'y rendre et à y former les nœuds qui doivent m'unir à vous et à mademoiselle de Volanges. Cependant, monsieur le duc de mon cousin, et à qui vous savez que j'ai tant d'obligations, vient de me faire part de son rappel de Naples. Il me mande qu'il compte passer par Rome et voir dans sa route la partie d'Italie qui lui reste à connaître. Il m'engage à accompagner dans ce voyage qui sera environ de 6 semaines ou 2 mois. Je ne vous cache pas qu'il me serait agréable de profiter de cette occasion, sentant bien qu'une fois mariée, je prendrai difficilement le temps de faire d'autres absences que celles que mon service exigera. Peut-être aussi serait-il plus convenable d'attendre l'hiver pour ce mariage, puisque ce ne peut être qu'alors que tous mes parents seront rassemblés à Paris, et nommément monsieur le marquis de... à qui je dois l'espoir de vous appartenir. Malgré ces considérations, mes projets à cet égard seront absolument subordonnés aux vôtres, et pour peu que vous préfériez vos premiers arrangements, je suis prêt à renoncer aux miens. Je vous prie seulement de me faire savoir le plus tôt possible vos intentions à ce sujet. J'attendrai votre réponse ici, et elle seule réglera ma conduite. Je suis avec respect, madame, et avec tous les sentiments qui conviennent à un fils, votre très humble, etc. Le comte de Gercourt, Bastia, ce 10 octobre 1700. Lettre 112, madame de Rosemonde à la présidente de Tourvel, dictée seulement. Je ne reçois qu'à l'instant même, ma chère belle, votre lettre du 11 et les doux reproches qu'elle contient. Convenez que vous aviez bien envie de m'en faire davantage et que si vous ne vous étiez pas ressouvenu que vous étiez ma fille, vous m'auriez réellement grondée. Vous auriez été pourtant bien injuste. C'était le désir et l'espoir de pouvoir vous répondre moi-même qui me faisait différer chaque jour et vous voyez qu'encore aujourd'hui, je suis obligée d'emprunter la main de ma femme de chambre. Mon malheureux rhumatisme m'a repris. Il s'est niché cette fois sur le bras droit, et je suis absolument manchotte. Voilà ce que c'est, jeune et fraîche comme vous êtes, d'avoir une si vieille amie. On souffre de ces incommodités. Aussitôt que mes douleurs me donneront un peu de relâche, je me promets bien de causer longuement avec vous. En attendant, sachez seulement que j'ai reçu vos deux lettres, qu'elles auraient redoublé, s'il était possible, ma tendre amitié pour vous, et que je ne cesserai jamais de prendre part, bien vivement, à tout ce qui vous intéresse. Mon neveu est aussi un peu indisposé, mais sans aucun danger, et sans qu'il faille en prendre aucune inquiétude. C'est une incommodité légère qui, à ce qu'il me semble, affecte plus son humeur que sa santé. Nous ne le voyons presque plus. Sa retraite et votre départ ne rendent pas notre petit cercle plus gai. La petite Volange, surtout, vous trouve furieusement à dire, et bâille tant que la journée dure à avaler ses poings. Particulièrement depuis quelques jours, elle nous fait l'honneur de s'endormir profondément toutes les après-dînées. Adieu, ma chère belle. Je suis pour toujours votre bien bonne amie, votre maman, votre sœur même, si mon grand âge me permettait ce titre. Enfin, je vous suis attachée par tous les plus tendres sentiments. Signée Adélaïde, pour madame de Rosemonde, du château de... ce 14 octobre 1700. Lettre 113, la marquise de Merteuil au vicomte de Valmont. Je crois devoir vous prévenir, vicomte, qu'on commence à s'occuper de vous à Paris, qu'on y remarque votre absence, et que déjà on en devine la cause. J'étais hier à un souper fort nombreux. Il y fut dit positivement que vous étiez retenu au village par un amour romanesque et malheureux. Aussitôt la joie se peignit sur le visage de tous les envieux de vos succès et de toutes les femmes que vous avez négligées. Si vous m'en croyez, vous ne laisserez pas prendre consistance à ces bruits dangereux et vous viendrez sur le champ les détruire par votre présence. Songez que si une fois vous laissez perdre l'idée qu'on ne vous résiste pas, vous éprouverez bientôt qu'on vous résistera en effet plus facilement, que vos rivaux vont aussi perdre de leur respect pour vous et oser vous combattre. Car lequel d'entre eux ne se croit pas plus fort que la vertu. Songez surtout que dans la multitude des femmes que vous avez affichées, toutes celles que vous n'avez pas eues vont tenter de détromper le public, tandis que les autres s'efforceront de l'abuser. Enfin, il faut vous attendre à être appréciée peut-être autant au-dessous de votre valeur que vous l'avez été au-dessus jusqu'à présent. Revenez donc, vicomte, et ne sacrifiez pas votre réputation à un caprice puéril. Vous avez fait tout ce que nous voulions de la petite Volange. Et pour votre présidente, ce ne sera pas apparemment en restant à 10 lieues d'elle que vous vous en passerez la fantaisie. Croyez-vous qu'elle ira vous chercher? Peut-être ne songe-t-elle déjà plus à vous, ou ne s'en occupe-t-elle encore que pour se féliciter de vous avoir humilié? Au moins ici pourrez-vous trouver quelque occasion de reparaître avec éclat, et vous en avez besoin. Et quand vous vous obstineriez à votre ridicule aventure, je ne vois pas que votre retour y puisse rien, au contraire. En effet, Si votre présidente vous adore, comme vous me l'avez tant dit et si peu prouvé, son unique consolation, son unique plaisir, doivent être à présent de parler de vous, de savoir ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous pensez, et jusqu'à la moindre des choses qui vous intéressent. Ces misères-là prennent du prix en raison des privations qu'on éprouve. Ce sont les miettes de pain tombant de la table du riche. Celui-ci les dédaigne, mais le pauvre les recueille avidement et s'en nourrit. Or, la pauvre présidente reçoit à présent toutes ces miettes-là. Et plus elle en aura, moins elle sera pressée de se livrer à l'appétit du reste. De plus, depuis que vous connaissez sa confidente, vous ne doutez pas que chaque lettre d'elle ne contienne au moins un petit sermon. Et tout ce qu'elle croit propre à corroborer sa sagesse et fortifier sa vertu. Pourquoi donc laisser à l'une des ressources pour se défendre et à l'autre pour vous nuire? Ce n'est pas que je sois du tout de votre avis sur la perte que vous croyez avoir faite au changement de confidente. D'abord, Madame de Volanges vous hait, et la haine est toujours plus clairvoyante et plus ingénieuse que l'amitié. Toute la vertu de votre vieille tante ne l'engagera pas à médire un seul instant de son cher neveu, car la vertu a aussi ses faiblesses. Ensuite, vos craintes portent sur une remarque absolument fausse. Il n'est pas vrai que plus les femmes vieillissent et plus elles deviennent rêches et sévères. C'est de 40 à 50 ans que le désespoir de voir leur figure se flétrir, la rage de se sentir obligée d'abandonner des prétentions et des plaisirs auxquels elles tiennent encore, rendent presque toutes les femmes bégueules et acariâtres. Il leur faut ce long intervalle pour faire en entier ce grand sacrifice. Mais dès qu'il est consommé, tout se partage en deux classes. La plus nombreuse, celle des femmes qui n'ont eu pour elles que leur figure et leur jeunesse, tombe dans une imbécile apathie et n'en sort plus que pour le jeu et pour quelques pratiques de dévotion. Celle-là est toujours ennuyeuse, souvent grondeuse, quelquefois un peu tracassière, mais rarement méchante. On ne peut pas dire non plus que ces femmes soient ou ne soient pas sévères. Sans idée, sans existence, elles répètent, sans le comprendre et indifféremment, tout ce qu'elles entendent dire, et restent par elles-mêmes absolument nulles. L'autre classe, beaucoup plus rare, mais véritablement précieuse, est celle des femmes qui, ayant eu un caractère et n'ayant pas négligé de nourrir leur raison, savent se créer une existence quand celle de la nature leur manque. Et prennent le parti de mettre à leur esprit les parures qu'elles employaient avant pour leur figure. Celles-ci ont pour l'ordinaire le jugement très sain et l'esprit à la fois solide, gai et gracieux. Elles remplacent les charmes séduisants par l'attachante bonté et encore par l'enjouement dont le charme augmente en proportion de l'âge. C'est ainsi qu'elles parviennent en quelque sorte à se rapprocher de la jeunesse en s'en faisant aimer. Mais alors, loin d'être, comme vous le dites, rêches et sévères, l'habitude de l'indulgence, leurs longues réflexions sur la faiblesse humaine et surtout les souvenirs de leur jeunesse, par lesquels seules elles tiennent encore à la vie, les placeraient plutôt peut-être trop près de la facilité. Ce que je peux vous dire enfin, c'est qu'ayant toujours recherché les vieilles femmes, dont j'ai reconnu de bonne heure l'utilité des suffrages, j'ai rencontré plusieurs d'entre elles auprès de qui l'inclination me ramenait autant que l'intérêt. Je m'arrête là. Car à présent que vous vous enflammez si vite et si moralement, j'aurais peur que vous ne devinssiez subitement amoureux de votre vieille tante, et que vous ne vous enterrassiez avec elle dans le tombeau où vous vivez déjà depuis si longtemps. Je reviens donc. Malgré l'enchantement où vous me paraissez être de votre petite écolière, je ne peux pas croire qu'elle entre pour quelque chose dans vos projets. Vous l'avez trouvée sous la main, vous l'avez prise, à la bonne heure. Mais ce ne peut pas être là un goût. Ce n'est même pas, à vrai dire, une entière jouissance. Vous ne possédez absolument que sa personne. Je ne parle pas de son cœur, dont je me doute bien que vous ne vous souciez guère. Mais vous n'occupez seulement pas sa tête. Je ne sais pas si vous vous en êtes aperçu, mais moi j'en ai la preuve dans la dernière lettre qu'elle m'a écrite. Je vous l'envoie pour que vous en jugiez. Voyez donc que quand elle parle de vous, c'est toujours « Monsieur de Valmont ». Que toutes ses idées, même celles que vous lui faites naître, n'aboutissent jamais qu'à Danceny. Et lui, elle ne l'appelle pas monsieur. C'est bien toujours Danceny, seulement. Par là, elle le distingue bien de tous les autres, et même en se livrant à vous, elle ne se familiarise qu'avec lui. Si une telle conquête vous paraît séduisante, si les plaisirs qu'elle donne vous attachent, Assurément, vous êtes modeste et peu difficile. Que vous la gardiez, j'y consens. Cela entre même dans mes projets. Mais il me semble que cela ne vaut pas de se déranger un quart d'heure. Qu'il faudrait aussi avoir quelque empire et ne lui permettre, par exemple, de se rapprocher de Danceny qu'après lui avoir fait un peu plus oublier. Avant de cesser de m'occuper de vous pour venir à moi, je veux encore vous dire que ce moyen de maladie que vous m'annoncez vouloir prendre est bien connu et bien usé. En vérité, vicomte, vous n'êtes pas inventif. Moi, je me répète aussi quelquefois, comme vous allez voir, mais je tâche de me sauver par les détails. Et surtout, le succès me justifie. Je vais encore en tenter un et courir une nouvelle aventure. Je conviens qu'elle n'aura pas le mérite de la difficulté, mais au moins sera-ce une distraction, et je m'ennuie à périr. Je ne sais pourquoi, depuis l'aventure de Prévan, Belleroche m'est devenu insupportable. Il a tellement redoublé d'attention, de tendresse, de vénération, que je n'y peux plus tenir. Sa colère, dans le premier moment, m'avait paru plaisante. Il a pourtant bien fallu la calmer, car c'eût été me compromettre que de le laisser faire, et il n'y avait pas moyen de lui faire entendre raison. J'ai donc pris le parti de lui montrer plus d'amour, pour en venir à bout plus facilement. Mais lui a pris cela au sérieux, et depuis ce temps il m'excède par son enchantement éternel. Je remarque surtout l'insultante confiance qu'il prend en moi, et la sécurité avec laquelle il me regarde comme à lui pour toujours. J'en suis vraiment humiliée. Il me prise donc bien peu, s'il croit valoir assez pour me fixer. Ne me disait-il pas dernièrement que je n'aurais jamais aimé un autre que lui ? Ah, pour le coup, j'ai eu besoin de toute ma prudence pour ne pas le détromper sur le champ en lui disant ce qui en était. Voilà certes un plaisant monsieur pour avoir un droit exclusif. Je conviens qu'il est bien fait, d'une assez belle figure, mais à tout prendre, ce n'est au fait qu'un manœuvre d'amour. Enfin, le moment est venu, il faut nous séparer. J'essaie déjà depuis 15 jours, et j'ai employé tour à tour la froideur, le caprice, l'humeur, les querelles, mais le tenace personnage ne quitte pas prise ainsi. Il faut donc prendre un parti plus violent. En conséquence, je l'emmène à ma campagne. Nous partons après-demain. Il n'y aura avec nous que quelques personnes désintéressées et peu clairvoyantes, et nous y aurons presque autant de liberté que si nous y étions seuls. Là, je le surchargerai à tel point d'amour et de caresses, nous y vivrons si bien l'un pour l'autre uniquement, que je parie bien qu'il désirera plus que moi la fin de ce voyage dont il se fait un si grand bonheur. Et s'il n'en revient pas plus ennuyé de moi que je ne le suis de lui, dites, j'y consens, que je n'en sais pas plus que vous. Le prétexte de cette espèce de retraite est de m'occuper sérieusement de mon grand procès, qui en effet se jugera enfin au commencement de l'hiver. J'en suis bien aise, car il est vraiment désagréable d'avoir ainsi toute sa fortune en l'air. Ce n'est pas que je sois inquiète de l'événement. D'abord, j'ai raison. Tous mes avocats me l'assurent. Et quand je ne l'aurai pas, je serai donc bien maladroite si je ne savais pas gagner un procès où je n'ai pour adversaire que des mineurs encore en bas âge et leurs vieux tuteurs. Comme il ne faut pourtant rien négliger dans une affaire si importante, j'aurai effectivement avec moi 2 avocats. Ce voyage ne vous paraît-il pas gai ? Cependant, s'il me fait gagner mon procès et perdre Belleroche, je ne regretterai pas mon temps. À présent, vicomte, devinez le successeur. Je vous le donne en 100. Mais bon, ne sais-je pas que vous ne devinez jamais rien ? Eh bien, c'est Danceny. Vous êtes étonné, n'est-ce pas ? Car enfin, je ne suis pas encore réduite à l'éducation des enfants. Mais celui-ci mérite d'être accepté. Il n'a que les grâces de la jeunesse et non la frivolité. Sa grande réserve dans le cercle est très propre à éloigner tous les soupçons, et on ne l'en trouve que plus aimable quand il se livre dans le tête-à-tête. Ce n'est pas que j'en ai déjà eu avec lui pour mon compte, je ne suis encore que sa confidente. Mais sous ce voile de l'amitié, je crois lui voir un goût très vif pour moi, et je sens que j'en prends beaucoup pour lui. Ce serait bien dommage que tant d'esprit et de délicatesse allât se sacrifier et s'abrutir auprès de cette petite imbécile de Volanges. J'espère qu'il se trompe en croyant l'aimer. Elle est si loin de le mériter. Ce n'est pas que je sois jalouse d'elle, mais c'est que ce serait un meurtre. Et je veux en sauver Danceny. Je vous prie donc, vicomte, de mettre vos soins à ce qu'il ne puisse se rapprocher de sa Cécile, comme il a encore la mauvaise habitude de la nommer. Un premier goût a toujours plus d'empire qu'on ne croit. et je ne serais sûre de rien s'il la revoyait à présent, surtout pendant mon absence. À mon retour, je me charge de tout, et j'en réponds. J'ai bien songé à emmener le jeune homme avec moi, mais j'en ai fait le sacrifice à ma prudence ordinaire. Et puis, j'aurais craint qu'il ne s'aperçût de quelque chose entre Belleroche et moi, et je serais au désespoir qu'il eût la moindre idée de ce qui se passe. Je veux au moins m'offrir à son imagination, pure et sans tache, tel enfin qu'il faudrait être pour être vraiment digne de lui. Paris, ce 15 octobre 1700. Lettre 114, la présidente de Tourvel à Madame de Rosemonde. Ma chère amie, je cède à ma vive inquiétude, et sans savoir si vous serez en état de me répondre, je ne puis m'empêcher de vous interroger. L'état de Monsieur de Valmont, que vous me dites sans danger, ne me laisse pas autant de sécurité que vous paraissez en avoir. Il n'est pas rare que la mélancolie et le dégoût du monde soient des symptômes avant-coureurs de quelque maladie grave. Les souffrances du corps, comme celles de l'esprit, font désirer la solitude. Et souvent on reproche de l'humeur à celui dont on devrait seulement plaindre les maux. Il me semble qu'il devrait au moins consulter quelqu'un. Comment, étant malade vous-même, n'avez-vous pas un médecin auprès de vous? Le mien que j'ai vu ce matin, et que je ne vous cache pas que j'ai consulté indirectement, est d'avis que dans les personnes naturellement actives, cette espèce d'apathie subite n'est jamais à négliger. Et comme il me disait encore, les maladies ne cèdent plus au traitement quand elles n'ont pas été prises à temps. Pourquoi faire courir ce risque à quelqu'un qui vous est si cher? Ce qui redouble mon inquiétude, c'est que depuis 4 jours, je ne reçois plus de nouvelles de lui. Mon Dieu, ne me trompez-vous point sur son état? Pourquoi aurait-il cessé de m'écrire tout à coup? Si c'était seulement l'effet de mon obstination à lui renvoyer ses lettres, je crois qu'il aurait pris ce parti plus tôt. Enfin, sans croire au pressentiment, je suis depuis 4 jours d'une tristesse qui m'effraie. Ah, peut-être suis-je à la veille du plus grand des malheurs. Vous ne sauriez croire, et j'ai honte de vous dire, combien je suis peinée de ne plus recevoir ces mêmes lettres que pourtant je refuserais encore de lire. J'étais sûre au moins qu'il était occupé de moi, et je voyais quelque chose qui venait de lui. Je ne les ouvrais pas, ces lettres, mais je pleurais en les regardant. Mes larmes étaient plus douces et plus faciles, et celles-là seules dissipaient en partie l'oppression habituelle que j'éprouve depuis mon retour. Je vous en conjure, mon indulgente amie, écrivez-moi vous-même aussitôt que vous le pourrez, et en attendant, faites-moi donner chaque jour de vos nouvelles et des siennes. Je m'aperçois qu'à peine je vous ai dit un mot pour vous, mais vous connaissez mes sentiments, mon attachement sans réserve, ma tendre reconnaissance pour votre sensible amitié. Vous pardonnerez au trouble où je suis, à mes peines mortelles, au tourment affreux d'avoir à redouter des maux dont peut-être je suis la cause. Grand Dieu, cette idée désespérante me poursuit et déchire mon cœur. Ce malheur me manquait, et je sens que je suis née pour les éprouver tous. Adieu, ma chère amie, aimez-moi, plaignez-moi. Aurais-je une lettre de vous aujourd'hui ? Paris, ce 16 octobre 1700. Lettre 115, le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. C'est une chose inconcevable, ma belle amie, comme aussitôt qu'on s'éloigne, on cesse facilement de s'entendre. Tant que j'étais auprès de vous, nous n'avions jamais qu'un même sentiment, une même façon de voir. Et parce que depuis près de 3 mois je ne vous vois plus, nous ne sommes plus du même avis sur rien. Qui de nous deux a tort? Sûrement vous n'hésiteriez pas sur la réponse. Mais moi, plus sage ou plus poli, je ne décide pas. Je vais seulement répondre à votre lettre et continuer de vous exposer ma conduite. D'abord, je vous remercie de l'avis que vous me donnez des bruits qui courent sur mon compte. Mais je ne m'en inquiète pas encore. Je me crois sûre d'avoir bientôt de quoi les faire cesser. Soyez tranquille. Je ne reparaîtrai dans le monde que plus célèbre que jamais, et toujours plus digne de vous. J'espère qu'on me comptera même pour quelque chose l'aventure de la petite Volange, dont vous paraissez faire si peu de cas. Comme si ce n'était rien, que d'enlever en une soirée une jeune fille à son amant aimé, d'en user ensuite tant qu'on le veut et absolument comme de son bien, et sans plus d'embarras. D'en obtenir ce qu'on n'ose pas même exiger de toutes les filles dans ce métier. Et cela sans la déranger en rien de son tendre amour, sans la rendre inconstante, pas même infidèle, car en effet, je n'occupe seulement pas sa tête. En sorte qu'après ma fantaisie passée, je la remettrai entre les bras de son amant, pour ainsi dire, sans qu'elle se soit aperçue de rien. Est-ce donc là une marche si ordinaire? Et puis, croyez-moi, une fois sortie de mes mains, les principes que je lui donne ne s'en développeront pas moins. Et je prédis que la timide écolière prendra bientôt un essor propre à faire honneur à son maître. Si pourtant on aime mieux le genre héroïque, je montrerai la présidente, ce modèle cité de toutes les vertus, respecté même de nos plus libertins, tel enfin qu'on avait perdu jusqu'à l'idée de l'attaquer. Je la montrerai, dis-je, oubliant ses devoirs et sa vertu, sacrifiant sa réputation et 2 ans de sagesse pour courir après le bonheur de me plaire, pour s'enivrer de celui de m'aimer, se trouvant suffisamment dédommagée de tant de sacrifices par un mot, par un regard encore qu'elle n'obtiendra pas toujours. Je ferai plus, je la quitterai, et je ne connais pas cette femme où je n'aurai point de successeur. Elle résistera aux besoins de consolation, à l'habitude du plaisir, au désir même de la vengeance. Enfin, elle n'aura existé que pour moi. Et que sa carrière soit plus ou moins longue, j'en aurai seul ouvert et fermé la barrière. Une fois parvenue à ce triomphe, je dirai à mes rivaux « Voyez mon ouvrage, et cherchez-en dans le siècle un second exemple. » Vous allez me demander d'où vient aujourd'hui cet excès de confiance. C'est que depuis 8 jours, je suis dans la confidence de ma belle. Elle ne me dit pas ses secrets, mais je les surprends. 2 lettres d'elle à Madame de Rosemonde m'ont suffisamment instruit, et je ne lirai plus les autres que par curiosité. Je n'ai absolument besoin, pour réussir, que de me rapprocher d'elle, et mes moyens sont trouvés. Je vais incessamment les mettre en usage. Vous êtes curieuse, je crois. Mais non. Pour vous punir de ne pas croire à mes inventions, vous ne les saurez pas. Tout de bon, vous mériteriez que je vous retirasse ma confiance, au moins pour cette aventure. En effet, sans le doux prix attaché par vous à ce succès, je ne vous en parlerai plus. Vous voyez que je suis fâchée. Cependant, dans l'espoir que vous vous corrigerez, je veux bien m'en tenir à cette punition légère. Et revenant à l'indulgence, j'oublie un moment mes grands projets pour raisonner des vôtres avec vous. Vous voilà donc à la campagne, ennuyeuse comme le sentiment et triste comme la fidélité. Et ce pauvre Belleroche. Vous ne vous contentez pas de lui faire boire l'eau d'oubli, vous lui en donnez la question. Comment s'en trouve-t-il? Supporte-t-il bien les nausées de l'amour? Je voudrais pour beaucoup qu'il ne vous en devînt que plus attaché. Je suis curieux de voir quel remède plus efficace vous parviendriez à employer. Je vous plains en vérité d'avoir été obligé de recourir à celui-là. Je n'ai fait qu'une fois dans ma vie l'amour par procédé. J'avais certainement un grand motif, puisque c'était à la comtesse de... Et 20 fois, entre ses bras, j'ai été tentée de lui dire « Madame, je renonce à la place que je sollicite, et permettez-moi de quitter celle que j'occupe. » Aussi, de toutes les femmes que j'ai eues, c'est la seule dont j'ai vraiment du plaisir à dire du mal. Pour votre motif à vous, je le trouve à vrai dire d'un ridicule rare, et vous avez raison de croire que je ne devinerai pas le successeur. C'est pour Danceny que vous vous donnez toute cette peine-là? Eh, ma chère amie, laissez-le adorer sa vertueuse Cécile et ne vous compromettez pas dans ses jeux d'enfants. Laissez les écoliers se former auprès des bonnes ou jouer avec les pensionnaires à de petits jeux innocents. Comment allez-vous vous charger d'un novice qui ne saura ni vous prendre ni vous quitter et avec qui il vous faudra tout faire? Je vous le dis sérieusement, je désapprouve ce choix et quelque secret qu'il restât, il vous humilierait au moins à mes yeux et dans votre conscience. Vous prenez, dites-vous, beaucoup de goût pour lui. Allons donc, vous vous trompez sûrement, et je crois même avoir trouvé la cause de votre erreur. Ce beau dégoût de Belleroche vous est venu dans un temps de disette, et Paris ne vous offrant pas de choix, vos idées toujours trop vives se sont portées sur le premier objet que vous avez rencontré. Mais songez qu'à votre retour, vous pourrez choisir entre 1000. Et si enfin vous redoutez l'inaction dans laquelle vous risquez de tomber indifférent, je m'offre à vous pour amuser vos loisirs. D'ici à votre arrivée, mes grandes affaires seront terminées de manière ou d'autre. Et sûrement, ni la petite Volange, ni la présidente elle-même ne m'occuperont pas assez alors pour que je ne sois pas à vous autant que vous le désirerez. Peut-être même d'ici là aurais-je déjà remis la petite fille aux mains de son discret amant. Sans convenir, quoi que vous en disiez, que ce ne soit pas une jouissance attachante, comme j'ai le projet qu'elle garde de moi toute sa vie, une idée supérieure à celle de tous les autres hommes, je me suis mise avec elle sur un ton que je ne pourrais soutenir longtemps sans altérer ma santé. Et dès ce moment, je ne tiens plus à elle que par le soin qu'on doit aux affaires de famille. Vous ne m'entendez pas ? C'est que j'attends une seconde époque pour confirmer mon espoir et m'assurer que j'ai pleinement réussi dans mes projets. Oui, ma belle amie, j'ai déjà un premier indice que le mari de mon écolière ne courra pas le risque de mourir sans postérité et que le chef de la maison de Gercourt ne sera à l'avenir qu'un cadet de celle de Valmont. Mais laissez-moi finir à ma fantaisie cette aventure que je n'ai entreprise qu'à votre prière. Songez que si vous rendez Danceny inconstant, vous ôtez tout le piquant de cette histoire. Considérez enfin que, m'offrant pour le représenter auprès de vous, j'ai, ce me semble, quelques droits à la préférence. J'y compte si bien que je n'ai pas craint de contrarier vos vues en concourant moi-même à augmenter la tendre passion du discret amoureux pour le premier et digne objet de son choix. Ayant donc trouvé hier votre pupille occupée à lui écrire, et l'ayant dérangée d'abord de cette douce occupation pour une autre plus douce encore, je lui ai demandé, après, de voir sa lettre. Et comme je l'ai trouvée froide et contrainte, je lui ai fait sentir que ce n'était pas ainsi qu'elle consolerait son amant. Et je l'ai décidé à en écrire une autre sous ma dictée. Ou en imitant du mieux que j'ai pu son petit radotage, j'ai tâché de nourrir l'amour du jeune homme par un espoir plus certain. La petite personne était toute ravie, me disait-elle, de se trouver parler si bien. Et dorénavant, je serai chargée de la correspondance. Que n'aurais-je pas fait pour ce Danceny ? J'aurais été à la fois son ami, son confident, son rival et sa maîtresse. Encore en ce moment, je lui rends le service de le sauver de vos liens dangereux. Oui, sans doute, dangereux. Car vous posséder et vous perdre, c'est acheter un moment de bonheur par une éternité de regrets. Adieu, ma belle amie. Ayez le courage de dépêcher Belleroche le plus que vous pourrez. Laissez-la, Danceny, et préparez-vous à retrouver et à me rendre les délicieux plaisirs de notre première liaison. Postscriptum. Je vous fais compliment sur le jugement prochain du grand procès. Je serai fort aise que cet heureux événement arrive sous mon règne. Du château de ce 19 octobre 1700. Lettre 116, le chevalier Danceny à Cécile Volanges. Madame de Merteuil est partie ce matin pour la campagne. Ainsi, ma charmante Cécile, me voilà privée du seul plaisir qui me restait en votre absence, celui de parler de vous, à votre amie et à la mienne. Depuis quelque temps, elle m'a permis de lui donner ce titre, et j'en ai profité avec d'autant plus d'empressement qu'il me semblait par là me rapprocher de vous davantage. Mon Dieu, que cette femme est aimable, et quel charme flatteur elle sait donner à l'amitié. Il semble que ce doux sentiment s'embellisse et se fortifie chez elle de tout ce qu'elle refuse à l'amour. Si vous saviez comme elle vous aime, comme elle se plaît à m'entendre lui parler de vous. C'est là sans doute ce qui m'attache autant à elle. Quel bonheur de pouvoir vivre uniquement pour vous deux, de passer sans cesse des délices de l'amour aux douceurs de l'amitié, d'y consacrer toute mon existence, d'être en quelque sorte le point de réunion de votre attachement réciproque, et de sentir toujours qu'en m'occupant du bonheur de l'une, je travaillerai également à celui de l'autre. Aimez, aimez beaucoup, ma charmante amie, cette femme adorable. L'attachement que j'ai pour elle, donnez-y plus de prix encore en le partageant. Depuis que j'ai goûté le charme de l'amitié, je désire que vous l'éprouviez à votre tour. Les plaisirs que je ne partage pas avec vous, il me semble n'en jouir qu'à moitié. Oui, ma Cécile, je voudrais entourer votre cœur de tous les sentiments les plus doux. Que chacun de ces mouvements vous fît éprouver une sensation de bonheur. Et je croirais encore ne pouvoir jamais vous rendre qu'une partie de la félicité que je tiendrai de vous. Pourquoi faut-il que ces projets charmants ne soient qu'une chimère de mon imagination, et que la réalité ne m'offre au contraire que des privations douloureuses et indéfinies? L'espoir que vous m'aviez donné de vous voir à cette campagne, je m'aperçois bien qu'il faut y renoncer. Je n'ai plus de consolation que celle de me persuader qu'en effet cela ne vous est pas possible. Et vous négligez de me le dire, de vous en affliger avec moi. Déjà deux fois, mes plaintes à ce sujet sont restées sans réponse. Ah, Cécile. Cécile, je crois bien que vous m'aimez de toutes les facultés de votre âme, mais votre âme n'est pas brûlante comme la mienne. Que n'est-ce à moi à lever les obstacles? Pourquoi ne sont-ce pas mes intérêts qu'il me faille ménager au lieu des vôtres? Je saurai bientôt vous prouver que rien n'est impossible à l'amour. Vous ne me demandez pas non plus quand doit finir cette absence cruelle. Au moins ici, peut-être, vous verrai-je. Vos charmants regards ranimeraient mon âme abattue. Leur touchante expression rassurerait mon cœur, qui quelquefois en a besoin. Pardon, ma Cécile. Cette crainte n'est pas un soupçon. Je crois à votre amour, à votre constance. Ah, je serais trop malheureux si j'en doutais. Mais tant d'obstacles, et toujours renouvelés. Mon ami, je suis triste, bien triste. Il semble que ce départ de Madame de Merteuil ait renouvelé en moi le sentiment de tous mes malheurs. Adieu, ma Cécile, adieu, ma bien-aimée. Songez que votre amant s'afflige et que vous pouvez seul lui rendre le bonheur. Paris, ce 17 octobre 1700. Lettre 117, Cécile Volanges au chevalier Danceny, dictée par Valmont. Croyez-vous donc, mon bon ami, que j'ai besoin d'être grondée pour être triste quand je sais que vous vous affligez? Et doutez-vous que je ne souffre autant que vous de toutes vos peines? Je partage même celles que je vous cause volontairement. Et j'ai de plus que vous de voir que vous ne me rendez pas justice. Oh, cela n'est pas bien. Je vois bien ce qui vous fâche. C'est que les deux dernières fois que vous m'avez demandé de venir ici, je ne vous ai pas répondu à cela. Mais cette réponse est-elle donc si aisée à faire? Croyez-vous que je ne sache pas que ce que vous voulez est bien mal? Et pourtant, si j'ai déjà tant de peine à vous refuser de loin, que serait-ce donc si vous étiez là? Et puis, pour avoir voulu vous consoler un moment, je resterai affligée toute ma vie. Tenez, je n'ai rien de caché pour vous. Voilà mes raisons, jugez vous-même. J'aurais peut-être fait ce que vous voulez, sans ce que je vous ai mandé, que ce monsieur de Gercourt qui cause tout notre chagrin n'arrivera pas encore de sitôt. Et comme depuis quelque temps, maman me témoigne beaucoup plus d'amitié, comme de mon côté je la caresse le plus que je peux, qui sait ce que je pourrais obtenir d'elle? Et si nous pouvions être heureux sans que j'aie rien à me reprocher, est-ce que cela ne vaudrait pas bien mieux? Si j'en crois ce qu'on m'a dit souvent, les hommes même n'aiment plus tant leurs femmes quand elles les ont trop aimées avant de l'être. Cette crainte-là me retient encore plus que tout le reste. Mon ami, n'êtes-vous pas sûr de mon cœur? Et ne sera-t-il pas toujours temps? Écoutez, je vous promets que si je ne peux pas éviter le malheur d'épouser monsieur de Gercourt, que je hais déjà tant avant de le connaître, rien ne me retiendra plus pour être à vous autant que je pourrai, et même avant tout. Comme je ne me soucie d'être aimé que de vous, et que vous verrez bien si je fais mal, il n'y aura pas de ma faute, le reste me sera bien égal, pourvu que vous me promettiez de m'aimer toujours, autant que vous faites. Mais mon ami, jusque-là, laissez-moi continuer comme je fais, et ne m'en demandez plus une chose que j'ai de bonnes raisons pour ne pas faire, et que pourtant, il me fâche de vous refuser. Je voudrais bien aussi que monsieur de Valmont ne fût pas si pressant pour vous. Cela ne sert qu'à me rendre plus chagrine encore. Oh, vous avez là un bien bon ami, je vous assure. Il fait tout comme vous feriez vous-même. Mais adieu, mon cher ami. J'ai commencé bien tard à vous écrire, et j'y ai passé une partie de la nuit. Je vais me coucher et réparer le temps perdu. Je vous embrasse, mais ne me grondez plus. Du château de ce 18 octobre 1700. Lettre 118, le chevalier Danceny à la marquise de Merteuil. Si j'en crois mon almanach, il n'y a, mon adorable ami, que 2 jours que vous êtes absente. Mais si j'en crois mon cœur, il y a 2 siècles. Or, je le tiens de vous-même, c'est toujours son cœur qu'il faut croire. Il est donc bien temps que vous reveniez, et toutes vos affaires doivent être plus que finies. Comment voulez-vous que je m'intéresse à votre procès? Si perte ou gain, j'en dois également payer les frais par l'ennui de votre absence. Oh, que j'aurais envie de vous quereller, et qu'il est triste, avec un si beau sujet d'avoir de l'humeur, de n'avoir pas le droit d'en montrer. N'est-ce pas cependant une véritable infidélité, une noire trahison, que de laisser votre ami loin de vous, après l'avoir accoutumé à ne plus pouvoir se passer de votre présence? Vous aurez beau consulter vos avocats, ils ne vous trouveront pas de justification pour ce mauvais procédé. Et puis ces gens-là ne disent que des raisons, et des raisons ne suffisent pas pour répondre à mes sentiments. Pour moi, vous m'avez tant dit que c'était par raison que vous faisiez ce voyage que vous m'avez tout à fait brouillé avec elle. Je ne veux plus du tout l'entendre, pas même quand elle me dit de vous oublier. Cette raison-là est pourtant bien raisonnable, et au fait, cela ne serait pas si difficile que vous pouviez le croire. Il suffirait seulement de perdre l'habitude de penser toujours à vous. Et rien ici, je vous assure, ne vous rappellerait à moi. Nos plus jolies femmes, celles qu'on dit les plus aimables, sont encore si loin de vous qu'elles ne pourraient en donner qu'une bien faible idée. Je crois même qu'avec des yeux exercés, plus on a cru d'abord qu'elles vous ressemblaient, plus on y trouve après de différence. Elles ont beau faire, beau y mettre tout ce qu'elles savent, il leur manque toujours d'être vous, et c'est positivement là qu'est le charme. Malheureusement, quand les journées sont si longues et qu'on est désoccupé, on rêve, on fait des châteaux en Espagne, on se crée sa chimère. Peu à peu, l'imagination s'exalte. On veut embellir son ouvrage, on rassemble tout ce qui peut plaire, on arrive enfin à la perfection. Et dès qu'on en est là, le portrait ramène au modèle, et on est tout étonné de voir qu'on n'a fait que songer à vous. Dans ce moment même, je suis encore la dupe d'une erreur à peu près semblable. Vous croyez peut-être que c'était pour m'occuper de vous que je me suis mise à vous écrire. Point du tout. C'était pour m'en distraire. J'avais 100 choses à vous dire, dont vous n'étiez pas l'objet, qui, comme vous savez, m'intéressent bien vivement. Et ce sont celles-là pourtant dont j'ai été distrait. Et depuis quand le charme de l'amitié distrait-il donc de celui de l'amour? Ah, si j'y regardais de bien près, peut-être aurais-je un petit reproche à me faire. Mais chut, oublions cette légère faute de peur d'y retomber, et que mon amie elle-même l'ignore. Aussi, pourquoi n'êtes-vous pas là pour me répondre, pour me ramener si je m'égare, pour me parler de ma Cécile, pour augmenter, s'il est possible, le bonheur que je goûte à l'aimer, par l'idée si douce que c'est votre amie que j'aime. Oui, je l'avoue, l'amour qu'elle m'inspire m'est devenu plus précieux encore depuis que vous avez bien voulu en recevoir la confidence. J'aime tant à vous ouvrir mon cœur, à occuper le vôtre de mes sentiments, à les y déposer sans réserve. Il me semble que je les chéris davantage à mesure que vous daignez les recueillir. Et puis je vous regarde et je me dis, c'est en elle qu'est renfermé tout mon bonheur. Je n'ai rien de nouveau à vous apprendre sur ma situation. La dernière lettre que j'ai reçue d'elle augmente et assure mon espoir, mais le retarde encore. Cependant, ses motifs sont si tendres et si honnêtes que je ne puis l'en blâmer ni m'en plaindre. Peut-être n'entendez-vous pas trop bien ce que je vous dis là, mais pourquoi n'êtes-vous pas ici? Quoi qu'on dise tout à son ami, on n'ose pas tout écrire. Les secrets de l'amour, surtout, sont si délicats qu'on ne peut les laisser aller ainsi sur leur bonne foi. Si quelquefois on leur permet de sortir, il ne faut pas au moins les perdre de vue. Il faut en quelque sorte les voir entrer dans leur nouvel asile. Ah, revenez donc, mon adorable ami. Vous voyez bien que votre retour est nécessaire. Oubliez enfin les 1000 raisons qui vous retiennent d'où vous êtes, ou apprenez-moi à vivre où vous n'êtes pas. J'ai l'honneur d'être, etc. Paris, ce 19 octobre 1700. Lettre 119, Madame de Rosemonde à la présidente de Tourvel. Quoique je souffre encore beaucoup, ma chère belle, j'essaye de vous écrire moi-même, afin de pouvoir vous parler de ce qui vous intéresse. Mon neveu garde toujours sa misanthropie. Il envoie fort régulièrement savoir de mes nouvelles tous les jours. Mais il n'est pas venu une fois s'en informer lui-même, quoique je l'en ai fait prier. En sorte que je ne le vois pas plus que s'il était à Paris. Je l'ai pourtant rencontré ce matin où je ne l'attendais guère. C'était dans ma chapelle, où je suis descendue pour la première fois depuis ma douloureuse incommodité. J'ai appris aujourd'hui que depuis 4 jours, il y va régulièrement entendre la messe. Dieu veuille que cela dure. Quand je suis entrée, il est venu à moi et m'a félicité fort affectueusement sur le meilleur état de ma santé. Comme la messe commençait, j'ai abrégé la conversation, que je comptais bien reprendre après. Mais il a disparu avant que j'aie pu le joindre. Je ne vous cacherai pas que je l'ai trouvé un peu changé. Mais, ma chère belle, ne me faites pas repentir de ma confiance en votre raison par des inquiétudes trop vives. Et surtout, soyez sûre que j'aimerais encore mieux vous affliger que vous tromper. Si mon neveu continue à me tenir rigueur, je prendrai le parti, aussitôt que je serai mieux, de l'aller voir dans sa chambre. Et je tâcherai de pénétrer la cause de cette singulière manie, dans laquelle je crois bien que vous êtes pour quelque chose. Je vous demanderai ce que j'aurai appris. Je vous quitte, ne pouvant plus remuer les doigts. Et puis si Adélaïde savait que j'ai écrit, elle me gronderait toute la soirée. Adieu, ma chère belle. Du château de ce 20 octobre 1700. Lettre 120, le vicomte de Valmont au père Anselme, feuillant du couvent de la rue Saint-Honoré. Je n'ai pas l'honneur d'être connu de vous, monsieur, mais je sais la confiance entière qu'a en vous madame la présidente de Tourvel, et je sais de plus combien cette confiance est dignement placée. Je crois donc pouvoir sans indiscrétion m'adresser à vous pour en obtenir un service bien essentiel, vraiment digne de votre saint ministère, et où l'intérêt de madame de Tourvel se trouve joint au mien. J'ai entre les mains des papiers importants qui la concernent, qui ne peuvent être confiés à personne, et que je ne dois ni ne veux remettre qu'entre ses mains. Je n'ai aucun moyen de l'en instruire, parce que des raisons, que peut-être vous aurez su d'elle, mais dont je ne crois pas qu'il me soit permis de vous instruire, lui ont fait prendre le parti de refuser toute correspondance avec moi. Parti que j'avoue volontiers aujourd'hui ne pouvoir blâmer, puisqu'elle ne pouvait prévoir des événements auxquels j'étais moi-même bien loin de m'attendre, et qui n'était possible qu'à la force plus qu'humaine qu'on est forcé d'y reconnaître. Je vous prie donc, monsieur, de vouloir bien l'informer de mes nouvelles résolutions, et de lui demander pour moi une entrevue particulière, où je puisse au moins réparer, en partie, mes torts par mes excuses. Et pour dernier sacrifice, anéantir à ses yeux les seules traces existantes d'une erreur ou d'une faute qui m'avait rendu coupable envers elle. Ce ne sera qu'après cette expiation préliminaire que j'oserai déposer à vos pieds l'humiliant aveu de mes longs égarements et implorer votre médiation pour une réconciliation bien plus importante encore et malheureusement plus difficile. Puis-je espérer, monsieur, que vous ne me refuserez pas des soins si nécessaires et si précieux et que vous daignerez soutenir ma faiblesse et guider mes pas dans un sentier nouveau, que je désire bien ardemment de suivre, mais que j'avoue, en rougissant, ne pas connaître encore. J'attends votre réponse avec l'impatience du repentir qui désire de réparer, et je vous prie de me croire avec autant de reconnaissance que de vénération, votre très humble, etc. Postscriptum. Je vous autorise, monsieur, au cas que vous le jugiez convenable, à communiquer cette lettre en entier à madame de Tourvel, que je me ferai toute ma vie un devoir de respecter, et en qui je ne cesserai jamais d'honorer, celle dont le ciel s'est servi pour ramener mon âme à la vertu, par le touchant spectacle de la sienne. Du château de ce 22 octobre 1700. Lettre 121. La marquise de Merteuil au chevalier Danceny. J'ai reçu votre lettre, mon trop jeune ami. Mais avant de vous remercier, il faut que je vous gronde. Et je vous préviens que si vous ne vous corrigez pas, vous n'aurez plus de réponse de moi. Quittez donc, si vous m'en croyez, ce ton de cajolerie qui n'est plus que du jargon, dès qu'il n'est pas l'expression de l'amour. Est-ce donc là le style de l'amitié? Non, mon ami. Chaque sentiment a son langage qui lui convient. Et se servir d'un autre, c'est déguiser la pensée qu'on exprime. Je sais bien que nos petites femmes n'entendent rien de ce qu'on peut leur dire s'il n'est traduit, en quelque sorte, dans ce jargon d'usage. Mais je croyais mériter, je l'avoue, que vous me distinguassiez d'elles. Je suis vraiment fâchée, et peut-être plus que je ne devrais l'être, que vous m'ayez si mal jugée. Vous ne trouverez donc dans ma lettre que ce qui manque à la vôtre, franchise et simplesse. Je vous dirai bien, par exemple, que j'aurai grand plaisir à vous voir, et que je suis contrariée de n'avoir auprès de moi que des gens qui m'ennuient, au lieu de gens qui me plaisent. Mais vous, cette même phrase, vous la traduisez ainsi. Apprenez-moi à vivre où vous n'êtes pas. En sorte que quand vous serez, je suppose, auprès de votre maîtresse, vous ne sauriez pas y vivre que je n'y sois entière. Quelle pitié! Et ces femmes à qui il manque toujours d'être moi. Vous trouvez peut-être que cela aussi manque à votre Cécile. Voilà pourtant où conduit un langage qui, par l'abus qu'on en fait aujourd'hui, est encore au-dessous du jargon des compliments et ne devient plus qu'un simple protocole auquel on ne croit pas davantage qu'au très humble serviteur. Mon ami, quand vous m'écrivez, que ce soit pour me dire votre façon de penser et de sentir, et non pour m'envoyer des phrases que je trouverai sans vous, plus ou moins bien dites dans le premier roman du jour. J'espère que vous ne vous fâcherez pas de ce que je vous dis là, quand même vous y verriez un peu d'humeur, car je ne nie pas d'en avoir. Mais pour éviter d'avoir jusqu'à l'air du défaut que je vous reproche, je ne vous dirai pas que cette humeur est peut-être un peu augmentée par l'éloignement où je suis de vous. Il me semble qu'à tout prendre, vous valez mieux qu'un procès et deux avocats, et peut-être même encore que l'attentif Belleroche. Vous voyez qu'au lieu de vous désoler de mon absence, vous devriez vous en féliciter, car jamais je ne vous avais fait un aussi beau compliment. Je crois que l'exemple me gagne et que je veux dire aussi des cajoleries. Mais non, j'aime mieux m'en tenir à ma franchise. C'est donc elle seule qui vous assure de ma tendre amitié et de l'intérêt qu'elle m'inspire. Il est fort doux d'avoir un jeune ami dont le cœur est occupé ailleurs. Ce n'est pas là le système de toutes les femmes, mais c'est le mien. Il me semble qu'on se livre avec plus de plaisir à un sentiment dont on ne peut rien avoir à craindre. Aussi j'ai passé pour vous, d'assez bonne heure peut-être, au rôle de confidente. Mais vous choisissez vos maîtresses si jeunes que vous m'avez fait apercevoir pour la première fois que je commence à être vieille. C'est bien fait à vous de vous préparer ainsi à une longue carrière de constance, et je vous souhaite de tout mon cœur qu'elle soit réciproque. Vous avez raison de vous rendre au motif tendre et honnête qui, à ce que vous me demandez, retarde votre bonheur. La longue défense est le seul mérite qui reste à celle qui ne résiste pas toujours. Et ce que je trouverais impardonnable à tout autre qu'à une enfant comme la petite Volange serait de ne pas savoir fuir un danger dont elle a été suffisamment avertie par l'aveu qu'elle a fait de son amour. Vous autres hommes, vous n'avez pas d'idée de ce qu'est la vertu et de ce qu'il en coûte pour la sacrifier. Mais pour peu qu'une femme raisonne, elle doit savoir qu'indépendamment de la faute qu'elle commet, une faiblesse est pour elle le plus grand des malheurs. Et je ne conçois pas qu'aucune s'y laisse jamais prendre quand elle peut avoir un moment pour y réfléchir. N'allez pas combattre cette idée, car c'est elle qui m'attache principalement à vous. Vous me sauverez des dangers de l'amour, et quoique j'ai bien su sans vous m'en défendre jusqu'à présent, je consens à en avoir de la reconnaissance. Et je vous en aimerai mieux et davantage. Sur ce, mon cher chevalier, je prie Dieu qu'il vous ait en sa sainte et digne garde. Du château de ce 22 octobre 1700. Lettre 122, Madame de Rosemonde à la présidente de Tourvel. J'espérais, mon aimable fille, pouvoir enfin calmer vos inquiétudes. Et je vois au contraire avec chagrin que je vais les augmenter encore. Calmez-vous, cependant. Mon neveu n'est pas en danger. On ne peut pas même dire qu'il soit réellement malade. Mais il se passe sûrement en lui quelque chose d'extraordinaire. Je n'y comprends rien. Mais je suis sortie de sa chambre avec un sentiment de tristesse, peut-être même d'effroi, que je me reproche de vous faire partager et dont cependant je ne puis m'empêcher de causer avec vous. Voici le récit de ce qui s'est passé. Vous pouvez être sûr qu'il est fidèle, car je vivrai 80 autres années que je n'oublierai pas l'impression que m'a faite cette triste scène. J'ai donc été ce matin chez mon neveu. Je l'ai trouvé écrivant et entouré de différents tas de papiers qui avaient l'air d'être l'objet de son travail. Il s'en occupait au point que j'étais au milieu de sa chambre qu'il n'avait pas encore tourné la tête pour savoir qui entrait. Aussitôt qu'il m'a aperçu, j'ai très bien remarqué qu'en se levant, il s'efforçait de composer sa figure. Et peut-être même est-ce là ce qui m'y a fait faire encore plus d'attention. Il était à la vérité sans toilette et sans poudre. Mais je l'ai trouvé pâle et défait, et ayant surtout la physionomie altérée. Son regard, que nous avons vu si vif et si gai, était triste et abattu. Enfin, soit dit entre nous, je n'aurais pas voulu que vous le vissiez ainsi, car il avait l'air très touchant et très propre à ce que je crois a inspiré cette tendre pitié qui est un des plus dangereux pièges de l'amour. Quoique frappé de mes remarques, j'ai pourtant commencé la conversation comme si je ne m'étais aperçu de rien. Je lui ai d'abord parlé de sa santé, et sans me dire qu'elle soit bonne, il ne m'a point articulé pourtant qu'elle fût mauvaise. Alors je me suis plainte de sa retraite, qui avait un peu l'air d'une manie, et je tâchais de mêler un peu de gaieté à ma réprimande. Mais lui m'a répondu seulement, d'un ton pénétré. C'est un tort de plus, je l'avoue, mais il sera réparé avec les autres. Son air, plus encore que ses discours, a un peu dérangé mon enjouement, et je me suis hâtée de lui dire qu'il mettait trop d'importance à un simple reproche de l'amitié. Nous nous sommes donc remis à causer tranquillement. Il m'a dit peu de temps après que peut-être une grande affaire, la plus grande affaire de sa vie, le rappellerait bientôt à Paris. Mais comme j'avais peur de la deviner, ma chère belle, et que ce début ne me mena à une confidence dont je ne voulais pas, je ne lui ai fait aucune question. Et je me suis contentée de lui répondre que plus de dissipation serait utile à sa santé. J'ai ajouté que pour cette fois, je ne lui ferai aucune instance, aimant mes amis pour eux-mêmes. C'est à cette phrase si simple que, serrant mes mains et parlant avec une véhémence que je ne puis vous rendre, « Oui, ma tante, m'a-t-il dit, aimez, aimez beaucoup un neveu qui vous respecte et vous chérit. Et comme vous dites, aimez-le pour lui-même. Ne vous affligez pas de son bonheur et ne troublez par aucun regret l'éternelle tranquillité dont il espère jouir bientôt. Répétez-moi que vous m'aimez et que vous me pardonnez. Oui, vous me pardonnerez. Je connais votre bonté. Mais comment espérer la même indulgence de ce que j'ai tant offensé ? » Alors il s'est baissé sur moi, pour me cacher, je crois, des marques de douleur que le son de sa voix me décelait malgré lui. Ému plus que je ne puis vous dire, je me suis levée précipitamment. Et sans doute il a remarqué mon effroi, car sur le champ se composant davantage, « Pardon, a-t-il repris, pardon, madame, je sens que je m'égare malgré moi. Je vous prie d'oublier mes discours et de vous souvenir seulement de mon profond respect. Je ne manquerai pas, a-t-il ajouté, d'aller vous en renouveler l'hommage avant mon départ. » Il m'a semblé que cette dernière phrase m'engageait à terminer ma visite, et je m'en suis allée, en effet. Mais plus j'y réfléchis, et moins je devine ce qu'il a voulu dire. Quelle est cette affaire, la plus grande de sa vie ? À quel sujet me demande-t-il pardon ? D'où lui est venu cet attendrissement involontaire en me parlant ? Je me suis déjà fait ces questions mille fois, sans pouvoir y répondre. Je ne vois même rien là qui ait rapport à vous. Cependant, comme les yeux de l'amour sont plus clairvoyants que ceux de l'amitié, je n'ai voulu vous laisser rien ignorer de ce qui s'est passé entre mon neveu et moi. Je me suis reprise à quatre fois pour écrire cette longue lettre, que je ferai plus longue encore sans la fatigue que je ressens. Adieu, ma chère belle. Du château de ce 25 octobre 1700. Lettre 123, le père Anselme au vicomte de Valmont. J'ai reçu, monsieur le vicomte, la lettre dont vous m'avez honoré, et dès hier, je me suis transporté, suivant vos désirs, chez la personne en question. Je lui ai exposé l'objet et les motifs de la démarche que vous demandiez de faire auprès d'elle. Quelque attachée que je l'ai trouvée au parti sage qu'elle avait pris d'abord, sur ce que je lui ai remontré, qu'elle risquait peut-être par son refus de mettre obstacle à votre heureux retour, et de s'opposer ainsi, en quelque sorte, aux vues miséricordieuses de la Providence, elle a consenti à recevoir votre visite, à condition toutefois que ce sera la dernière. Et m'a chargé de vous annoncer qu'elle serait chez elle jeudi prochain, 28. Si ce jour ne pouvait pas vous convenir, vous voudrez bien l'en informer et lui en indiquer un autre. Votre lettre sera reçue. Cependant, monsieur le vicomte, permettez-moi de vous inviter à ne pas différer sans de fortes raisons afin de pouvoir vous livrer plus tôt et plus entièrement aux dispositions louables que vous me témoignez. Songez que celui qui tarde à profiter du moment de la grâce s'expose à ce qu'elle lui soit retirée. Que si la bonté divine est infinie, l'usage en est pourtant réglé par la justice, et qu'il peut venir un moment où le Dieu de la miséricorde se change en un Dieu de vengeance. Si vous continuez à m'honorer de votre confiance, je vous prie de croire que tous mes soins vous seront acquis, aussitôt que vous le désirerez. Quelque grande que soient mes occupations, mon affaire la plus importante sera toujours de remplir les devoirs du Saint Ministère, auquel je me suis particulièrement dévouée. Et le moment le plus beau de ma vie, celui où je verrai mes efforts prospérer par la bénédiction du Tout-Puissant. Faibles pécheurs que nous sommes, nous ne pouvons rien par nous-mêmes, mais le Dieu qui vous rappelle peut tout, et nous devrons également à sa bonté, vous, le désir constant de vous rejoindre à lui, et moi les moyens de vous y conduire. C'est avec son secours que j'espère vous convaincre bientôt que la religion sainte peut donner seule, même en ce monde, le bonheur solide et durable qu'on cherche vainement dans l'aveuglement des passions humaines. J'ai l'honneur d'être, avec une respectueuse considération, etc. Paris, ce 25 octobre 1700. Lettre 124, la présidente de Tourvel à Madame de Rosemonde. Au milieu de l'étonnement où m'a jeté, madame, la nouvelle que j'ai apprise hier, je n'oublie pas la satisfaction qu'elle doit vous causer, et je me hâte de vous en faire part. Monsieur de Valmont ne s'occupe plus de moi, ni de son amour, et ne veut plus que réparer, par une vie plus édifiante, les fautes, ou plutôt les erreurs de sa jeunesse. J'ai été informée de ce grand événement par le père Anselme, auquel il s'est adressé pour le diriger à l'avenir, et aussi pour lui ménager une entrevue avec moi, dont je juge que l'objet principal est de me rendre mes lettres, qu'il avait gardées jusqu'ici, malgré la demande contraire que je lui avais faite. Je ne puis sans doute qu'applaudir à cet heureux changement, et m'en féliciter, si, comme il le dit, j'ai pu y concourir en quelque chose. Mais pourquoi fallait-il que j'en fusse l'instrument, et qu'il m'en coûtât le repos de ma vie? Le bonheur de monsieur de Valmont ne pouvait-il arriver jamais que par mon infortune? Oh, mon indulgente amie, pardonnez-moi cette plainte. Je sais qu'il ne m'appartient pas de sonder les décrets de Dieu. Mais tandis que je lui demande sans cesse et toujours vainement la force de vaincre mon malheureux amour, il la prodigue à celui qui ne la lui demandait pas et me laisse sans secours, entièrement livré à ma faiblesse. Mais étouffant ce coupable murmure, ne sais-je pas que l'enfant prodigue, à son retour, obtint plus de grâce de son père que le fils qui se n'était jamais absenté? Quel compte avons-nous à demander à celui qui ne nous doit rien? Et quand il serait possible que nous eussions quelques droits auprès de lui, quels pourraient être les miens? Me vanterais-je d'une sagesse que déjà je ne dois qu'à Valmont? Il m'a sauvé, et j'oserais me plaindre en souffrant pour lui. Non, mes souffrances me seront chères, si son bonheur en est le prix. Sans doute, il fallait qu'il revînt à son tour au Père commun. Le Dieu qui l'a formé devait chérir son ouvrage. Il n'avait point créé cet être charmant pour en faire un réprouvé. C'est à moi de porter la peine de mon audacieuse imprudence. Ne devais-je pas sentir que, puisqu'il m'était défendu de l'aimer, je ne devais pas me permettre de le voir? Ma faute ou mon malheur est de m'être refusé trop longtemps à cette vérité. Vous m'êtes témoin, ma chère et digne amie, que je me suis soumise à ce sacrifice, aussitôt que j'en ai reconnu la nécessité. Mais pour qu'il fût entier, il est manqué que M. de Valmont ne le partageât point. Vous avouerai-je que cette idée est à présent ce qui me tourmente le plus? Insupportable orgueil qui adoucit les maux que nous éprouvons par ceux que nous faisons souffrir. Ah, je vaincrai ce cœur rebelle, je l'accoutumerai aux humiliations. C'est surtout pour y parvenir que j'ai enfin consenti à recevoir, jeudi prochain, la pénible visite de M. de Valmont. Là, je l'entendrai me dire lui-même que je ne lui suis plus rien, que l'impression faible et passagère que j'avais faite sur lui est entièrement effacée. Je verrai ses regards se porter sur moi, sans émotion, tandis que la crainte de déceler la mienne me fera baisser les yeux. Ces mêmes lettres, qu'il refusa si longtemps à mes demandes réitérées, je les recevrai de son indifférence. Il me les remettra comme des objets inutiles et qui ne l'intéressent plus. Et mes mains tremblantes, en recevant ce dépôt honteux, sentiront qu'il leur est remis d'une main ferme et tranquille. Enfin, je le verrai s'éloigner pour jamais, et mes regards qui le suivront ne verront pas les siens se retourner sur moi. Et j'étais réservée à tant d'humiliation. Ah, que du moins je me la rende utile, en me pénétrant par elle du sentiment de ma faiblesse. Oui, ces lettres qu'il ne se soucie plus de garder, je les conserverai précieusement. Je m'imposerai la honte de les relire chaque jour, jusqu'à ce que mes larmes en aient effacé les dernières traces. Et les siennes, je les brûlerai comme infectées du poison dangereux qui a corrompu mon âme. Oh, qu'est-ce donc que l'amour, s'il nous fait regretter jusqu'au danger auquel il nous expose? Si surtout, on peut craindre de le ressentir encore, même alors qu'on ne l'inspire plus. Fuyons cette passion funeste, qui ne laisse de choix qu'entre la honte et le malheur, et souvent même les réunit tous deux, et qu'au moins la prudence remplace la vertu. Que ce jeudi est encore loin, que ne puis-je consommer à l'instant ce douloureux sacrifice, et en oublier à la fois et la cause et l'objet. Cette visite m'importune, je me repens d'avoir promis. Et qu'a-t-il besoin de me revoir encore? Que sommes-nous à présent l'un à l'autre? S'il m'a offensé, je lui pardonne. Je le félicite même de vouloir réparer ses torts. Je l'en loue, je ferai plus, je l'imiterai. Et séduite par les mêmes erreurs, son exemple me ramènera. Mais quand son projet est de me fuir, pourquoi commencer par me chercher? Le plus pressé pour chacun de nous n'est-il pas d'oublier l'autre? Ah, sans doute, et ce sera dorénavant mon unique souci. Si vous me le permettez, mon aimable ami, ce sera auprès de vous que j'irai m'occuper de ce travail difficile. Si j'ai besoin de secours, peut-être même de consolation, je n'en veux recevoir que de vous. Vous seul savez m'entendre et parler à mon cœur. Votre précieuse amitié remplira toute mon existence. Rien ne me paraîtra difficile pour seconder les soins que vous voudrez bien vous donner. Je vous devrai ma tranquillité, mon bonheur, ma vertu. Et le fruit de vos bontés pour moi sera de m'en avoir enfin rendu digne. Je me suis, je crois, beaucoup égarée dans cette lettre. Je le présume au moins par le trouble où je n'ai pas cessé d'être en vous écrivant. S'il s'y trouvait quelques sentiments dont j'ai à rougir, couvrez-les de votre indulgente amitié. Je m'en remets entièrement à elle. Ce n'est pas à vous que je veux dérober aucun des mouvements de mon cœur. Adieu, ma respectable amie. J'espère, sous peu de jours, vous annoncer celui de mon arrivée. Paris, ce 25 octobre 1700.